Quand on voit que les gens galèrent avec les salaires qu'on a, qu'est-ce que ça va être qu'on va être à la retraite?
Ce qu'on déplore depuis des années, c'est le manque d'effectifs.
Je les suis, les filles, je trouve extraordinaire ce qu'elles font.
Ça fait comme si on envoyait des tas de petites bulles de musique un peu partout dans les cellules.
Une salle pour juste où on se pose l'hiver, au chaud.
Il faut des endroits et des structures adaptées pour récupérer les abîmés de la vie qu'on est.
À vous, les Burgiens.
Inès Lombarté, Audrey Arnondi.
Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Inès.
Bonjour Audrey, bonjour à tous.
Toutes les 4 minutes, une personne est victime d'un AVC, accident vasculaire cérébral. Même des enfants sont touchés. Pour en parler et apprendre à leur connaître, Bruno Boulard est sur les routes de France. Il est passé par Bourg-en-Bresse.
Un nouveau guide pour vos balades dans l'Ain, avec une application dédiée. On l'a testé pour vous et c'est à écouter en fin d'émission.
Retour sur la lettre ouverte à la préfète de l'association Aide Solidarité envers les demandeurs d'asile de l'Ain. Et vous entendrez le collectif Action Culture 1 mobilisé contre la réforme de l'assurance chômage.
Et c'est tout de suite dans Bourg en bref.
Bourg en bref.
Les élèves de primaire retrouvent leur école.
Ce lundi matin, les maternelles et primaires ont fait leur rentrée. Les collégiens et lycéens ont eux aussi repris les cours, mais à distance, et doivent retourner en classe la semaine du 3 mai. À quelques jours de cette rentrée, le syndicat d'enseignants FSU l'a affirmé, des inquiétudes persistent face à une circulation du virus toujours élevée. Le syndicat réclame des classes allégées en lycée et collège, plus de tests salivaires et s'inquiète aussi sur le flou des examens de fin d'année à ce jour maintenu, comme l'a annoncé le ministre de l'Éducation. Le FSU, l'autre syndicat et des parents ont lancé une pétition pour obtenir ces différentes mesures.
Le troisième confinement se lève peu à peu.
Le 3 mai, ce sera la fin de la limitation à 10 km pour les déplacements, plus besoin d'attestation en journée. Emmanuel Macron envisage aussi de repousser l'heure du couvre-feu, mais en attendant, les règles restent en vigueur. Et pour la réouverture des lieux publics, des terrasses et des commerces dits non essentiels, la décision sera prise à partir de mi-mai seulement.
Les enseignants, comme d'autres professionnels prioritaires de plus de 55 ans, invités à se faire vacciner.
Et sont aussi concernés les policiers, les conducteurs de bus ou encore les agents d'entretien. Considérés comme les plus exposés au virus, ils peuvent se faire vacciner au vaccin AstraZeneca depuis le week-end dernier. Pas besoin de prendre rendez-vous ni de réserver, il faut juste ramener une pièce d'identité, sa carte vitale et un justificatif professionnel. Ça se passe dans plusieurs centres de vaccination du département, à Amberieu, en Bugey, Belay, Bourg-en-Bresse et Oyonnax. Plus d'informations sur le site santé.fr.
L'hôpital Fleuriat déprogramme des opérations.
Comme il y a un an, les opérations moins urgentes sont reportées, une décision de l'Agence régionale de santé. Les anesthésistes peuvent donc renforcer les équipes en réanimation. Quelques chiffres sur la situation à l'hôpital Fleuriat. 15 patients étaient en réanimation au 16 avril sur les 22 lits disponibles. 45 personnes sont hospitalisées pour des cas de Covid. 5 patients ont été transférés dans les hôpitaux de Clermont et de Vichy. Et selon l'hôpital, cette troisième vague touche des personnes plus jeunes, avec une moyenne d'âge de 63 ans pour les patients hospitalisés pour des cas de Covid-19.
Trois associations alertent sur les expulsions de migrants par la préfecture.
Emmaüs, le collectif Jeunes Migrants et l'ASDA 01 dénoncent surtout les séparations de familles de migrants. Des pères ou même des mères de famille demandeurs d'asile sont renvoyés dans leur pays d'origine alors que leurs conjoints et leurs enfants peuvent rester. Pierre Mestre est président de l'ASDA 01, aide solidarité envers les demandeurs d'asile de l'Ain. Il les accompagne dans les démarches administratives et judiciaires. Il nous explique la situation.
La préfète de l'Ain sépare des couples parentaux. Elle sépare des familles en renvoyant l'un des parents. Alors, le plus souvent, c'est le père, mais nous avons également un dossier où c'est la maman, alors qu'il y a un enfant en bas âge avec le père, où c'est la maman qui est renvoyée dans son pays d'origine. Et donc, pour nous, cette question de la séparation des familles, elle dépasse largement la question, j'allais dire, purement migratoire, parce qu'on a vraiment affaire, de notre point de vue, à un problème qui est un problème d'humanité, hein, et de respect de l'intérêt supérieur de l'enfant qui veut qu'un enfant puisse vivre avec ses deux parents.
Et donc ça ne se faisait pas avant avec les autres préfets ?
On a vu ce genre de pratique avec les autres préfets. Mais on voit avec le nombre de personnes qui viennent nous demander conseil et nous demander aide, que cette pratique se généralise, qu'elle devient quasi la norme et qu'il n'y a plus aucune considération de la situation familiale qui est faite par le préfet. Il y a une forme de systématisme où quand il y a un refus de demande d'asile, immédiatement la préfète prend une OQTF, une obligation de quitter le territoire, et la personne est renvoyée dans son pays d'origine sans tenir compte de la situation familiale.
L'ASDA 01 avec Emmaüs et le collectif Jeunes Migrants ont envoyé une lettre ouverte à la préfecture pour demander l'arrêt des séparations de famille qui demandent l'asile. Chaque année, la préfecture prononce plus de 1000 OQTF, des obligations de quitter le territoire français après le refus d'une demande d'asile. Nous avons contacté la préfecture de l'Ain qui a bien reçu cette lettre ouverte. Le cabinet de la préfète rappelle que chacune des décisions sont prises dans le respect du droit et sous le contrôle du juge administratif, qui confirme dans 85% des cas les décisions prises. Il ajoute que le taux de reconduite appliqué dans l'Ain est semblable à celui constaté sur l'ensemble du territoire national.
Le collectif Action Culture 1, de nouveau dans la rue, samedi dernier.
Ils étaient une cinquantaine devant la préfecture, habillés en noir. Le collectif a décidé d'élargir ses revendications. Ils manifestaient contre la réforme de l'assurance chômage. Alain Salé, intermittent du spectacle et occupant de la tannerie.
Le mouvement, il est quand même un peu politique. Il s'est politisé un tout petit peu. C'est-à-dire, on est par rapport à l'assurance chômage. C'est un des quatre points des revendications. Je vous le rappelle, les revendications, au début, elles étaient très corporatistes, liées à la culture, réouverture immédiate ou prolongation de l'année blanche. Mais il y a aussi, on a vraiment envie de s'intéresser à cette réforme d'assurance chômage qui n'a pas lieu d'être en pleine pandémie. On dirait que le président ou son gouvernement veut passer des réformes à tout prix dans son mandat. Et on trouve ça pas opportun et qu'elle va précariser encore plus. Donc depuis le début fin mars, déjà, c'était assez clair que ces revendications étaient là. Et que par rapport à l'assurance chômage qui est en train de se voter au 1er avril et qui va être mis en place au 1er juillet, ça allait être presque notre combat essentiel, avant la réouverture presque. Parce que la réouverture, on va se plier aux ordres sanitaires, on va être bien sage, on va essayer d'aller un peu plus dans la rue, tout ça. Puis on a l'année blanche qui se prolonge jusqu'au 31 août. Mais même de toute façon, on aura un problème. Comme ils ne veulent pas la prolonger, l'année blanche, on n'a pas pu travailler. Donc on se sent précaire.
Une partie des mesures de la réforme de l'assurance chômage doivent entrer en rigueur le 1er juillet. Par exemple, le changement du mode de calcul des allocations qui pénalisera les salariés avec des périodes de travail et de chômage. Le samedi 1er mai, le collectif Action Culture 1 manifestera aussi dès 10h30 devant la préfecture.
Emmaüs Servas a rouvert ses portes pour les ventes.
La préfecture a autorisé l'association à ouvrir son espace de vente à Servas, mais la boutique de Bourg-en-Bresse reste fermée. Les horaires, le mercredi et le samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30 et seulement l'après-midi pour le jeudi. Et vous pouvez toujours venir déposer des affaires à Servas.
Annulation des événements à Bourg-en-Bresse jusqu'à la mi-mai.
Des événements en ligne vont quand même avoir lieu. La journée de l'Europe, le 9 mai, vous pouvez envoyer à la mairie une photo souvenir d'un de vos voyages dans un pays européen. Elle sera ensuite diffusée dans un diaporama. C'est jusqu'au 5 mai. Et le printemps culturel de Bourg, qui devait avoir lieu du 13 au 15 mai, est remplacé par une soirée en ligne le 30 avril sur le site bourg-en-bresse.fr. À 19h, il y aura un spectacle familial, le Chaperon Louche, de la compagnie Premier Acte. Et à 21h, le concert de Sandra Nkake.
L'invité de Radio B.
L'AVC, l'accident vasculaire cérébral, est la deuxième cause de mortalité en France.
Il y a une victime toutes les 4 minutes de cette maladie. C'est environ 150 000 personnes touchées chaque année en France et 30 000 décès. Mercredi dernier, nous avons reçu Bruno Boulard qui s'est lancé le défi de parcourir la France à vélo pour faire connaître l'AVC. Il était de passage à Bourg-en-Bresse lors de son étape entre Mâcon et le nord de l'Isère. Bonjour Bruno Boulard.
Bonjour.
Vous êtes donc artisan dans le Gard. Depuis fin mars, vous faites le tour de France pour sensibiliser à l'AVC et notamment chez les enfants. Et vous vous êtes lancé ce défi, ce tour de France de 5000 km à vélo à la rencontre de personnes qui ont subi un AVC. Alors déjà, pourquoi ce défi ?
Parce qu'il y a 150 000 victimes par an, dont 1000 enfants. Et c'est encore méconnu en France, même dans le milieu hospitalier. Il y a plus de 50% de la population qui ne connaissent pas les symptômes. Donc il faut en parler.
Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces symptômes, justement ?
Alors, il y a un mal de tête intense, suivi parfois de vomissements. C'est surtout un mal de tête à l'arrière de la tête. Ensuite, on a un sourire de travers, une phrase simple qu'on n'arrive pas à exprimer, une perte d'équilibre, un membre qui peut se paralyser, un trouble de la vue subitement. Ben, c'est de suite le 15 pour sauver des vies.
Donc vous, dans votre parcours personnel, c'est votre frère qui a eu un AVC. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé ?
Ben, j'étais à Strasbourg, j'étais en train de travailler sur un chantier. Et puis ma belle-sœur m'a appelé me disant que mon frère était dans un pronostic vital engagé. Il venait de faire un AVC. Il a eu la boîte crânienne découpée pour éviter que l'hématome explose. 3 semaines de coma et puis quand il s'est réveillé, tout le côté gauche paralysé. Alors quand on est à 600 km de la maison, on se pose beaucoup de questions et puis ça fait réfléchir. Et quand je l'ai vu le lendemain sur le lit d'hôpital comme légume, ben ça m'a choqué et je le souhaite à personne. Et c'est pour ça qu'il faut alerter, informer, parce que y a encore de la méconnaissance sur cette pathologie.
Et donc à quel moment vous êtes dit « je vais récolter de l'argent pour aider les gens victimes d'AVC » ?
C'est surtout le troisième défi que j'ai commencé à vouloir récolter des dons parce que c'est à ce moment-là que j'ai appris aussi que ça touchait les enfants. Donc moi, ça fait que 3 ans aussi que je sais. Et pour moi, c'est grave, il faut en parler. Parce que les enfants, pour moi, ça doit jouer, ça doit pas être malade. Quoi. Ils ont des séquelles assez tardives parce que c'est méconnu et il y a des diagnostics qui sont faits, des IRM qui sont faits trop tard. Et les enfants ont beaucoup plus de séquelles. Il faut en parler pour éviter ça. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai eu envie de faire ces défis pour en parler, pour les aider, récolter des dons.
Est-ce que vous pouvez expliquer comment l'argent est récolté et à quoi il va servir ?
Alors les enfants ont besoin de beaucoup de... Il y a beaucoup de kinés, d'ergonomie, d'orthophonistes, du matériel pour aménager une voiture, pour aménager un fauteuil, parce que certains ne tiennent pas encore seuls dans un fauteuil. Voilà, il y a beaucoup de soins, donc c'est beaucoup d'argent parce que la plupart des soins ne sont pas remboursés à 100% par la sécurité sociale. Donc ces dons vont servir à ça. Et il y a l'association Carwan de Troyes, reconnue d'utilité publique, qui aide justement tous ces enfants, qui récolte le don par le biais de Hello Asso, l'association Carwan de Troyes. On peut faire un don jusqu'au 21 mai, me semble.
C'est une association qui va reverser à tous les enfants
qui ont participé au défi. Donc, faites un don. Ce serait pour les aider, ce serait bien.
Que vous avez rencontré 14 enfants victimes d'un AVC. Est-ce que vous pouvez nous raconter ces rencontres ? Qu'est-ce que vous en avez appris ?
Qu'ils sont pleins de courage, qu'ils se battent en silence. Ils apportent beaucoup de joie à leur famille. Ils sont souriants, pleins d'énergie. Ils ont envie. Je pense qu'aujourd'hui, ils seront un peu connus ou reconnus dans la rue, parce qu'il y a quasiment toutes les communes où je suis passé, où ils habitent eux, qui ont fait des articles avec leurs photos dans les journaux. Et je pense qu'ils sont... Peut-être que maintenant, les gens, quand ils vont le croiser, ou même les enfants, quand ils vont les croiser, ils sauront pourquoi ils ont un bras qui ne bouge pas, ou pourquoi ils ne parlent pas. Donc ils seront peut-être moins montrés du doigt. Donc je pense que ça peut leur faire du bien aussi. Puis ils m'ont apporté aussi du courage. Quand sur mon vélo, je galère un peu parce que je suis parti sans entraînement. Le mal de fesses que j'ai eu, le problème au genou, j'oublie en pensant à eux qu'ils ils peuvent pas s'arrêter. Ils sont obligés de se battre tous les jours pour apprendre à marcher, pour apprendre à parler. Donc j'avais pas le droit de m'arrêter et je le fais pour eux aussi.
Donc c'est 5000 km, vous arrivez bientôt à la fin, ça se termine le 25 avril. Qu'est-ce qui vous a marqué ? Est-ce que vous avez quelques anecdotes ?
Bon, mais j'ai eu de bonnes soirées conviviales autour d'un bon repas. Ça m'a permis aussi de découvrir certains plats régionaux. Mais voilà, j'ai passé de très bons moments. Je me suis rendu compte que quand on est tous dans un même combat, il n'y a pas de niveau social. J'ai été hébergé chez une juriste, chez un chômeur, chez une maîtresse d'école, chez des infirmiers, chez un lieutenant-colonel avec médaillé de la Légion d'honneur, chez une caissière, voilà, tout le milieu niveau sociaux. On ne regarde pas ce qu'on fait, ce qu'on est, mais on parle d'un combat, on parle d'anecdotes qu'on a pu passer aussi dans nos vies, mais on ne regarde pas comment est habillé l'autre. C'est top. C'est une belle aventure.
Qu'est-ce que vous aimeriez, vous, que tout ce que vous avez fait, toute cette communication, apporte à la fin ?
Qu'il y ait un maximum de personnes qui soient informées sur les symptômes. Donc, on aimerait que les pouvoirs publics bougent pour faire une campagne publicitaire de prévention. Je pense que ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Vous avez bien vu les signes que je vous ai annoncés, ça prend quelques secondes. Qui la diffuse 2 ou 3 fois par semaine, ou même 2 ou 3 fois par mois, je pense que ça doit être faisable. Et ça permettrait justement à ces plus de 50% de la population de se dire, tiens, la personne qui est en face de moi, elle est en train de faire l'AVC, je fais le 15 de suite. Parce que personne n'y pense, et même dans le milieu hospitalier, je vous dis, ils ne savent pas que ça puisse toucher des enfants. Donc il n'y a pas d'IRM ou de diagnostic fait assez rapidement, et c'est un problème.
Merci beaucoup Bruno Boulard.
Merci
et bonne
vous.
Fin de route.
Merci.
Et après son passage à Radio B, Bruno Boulard est parti en direction de l'Isère pour rencontrer Jessica Jacques, victime d'un AVC il y a 4 ans. Elle en a aujourd'hui 35, elle témoigne.
Donc moi, brutalement, j'ai eu très mal à la tête, à l'arrière droit de mon crâne. Puis j'ai perdu mon sens visuel gauche. J'ai eu des gros problèmes d'élocution et j'avais plus d'équilibre. Face aux symptômes que j'avais, j'étais en réunion de travail et mon chef donc, a appelé le SAMU. Un ambulancier est arrivé et malgré les symptômes que je présentais qui doivent normalement faire penser immédiatement à un AVC, j'ai été emmenée aux urgences traditionnelles et pas en unité neurovasculaire qui traite l'urgence de l'accident vasculaire cérébral. Ils ont pensé que je faisais une migraine ophtalmique. Donc ils ont tardé à me faire passer un scanner. Ils m'ont transféré en service ophtalmologie dans un autre hôpital. Et ils ont tardé à passer l'IRM qui a conclu 53 heures après que j'avais fait un AVC. J'aurais pu y laisser ma vie. Je ne m'explique toujours pas en fait comment 53 heures après je peux être encore en vie aujourd'hui et être dans l'état dans lequel je suis. J'ai eu vraiment beaucoup, beaucoup de chance. Et malheureusement, ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a des personnes pour qui le diagnostic a tardé et ça leur a été fatal.
Jessica a entrepris elle-même de faire de la rééducation pour limiter son handicap. Elle garde toujours des séquelles aujourd'hui au niveau de sa vision et de son équilibre. Cette mère de 2 enfants a été licenciée de son entreprise et cherche encore un travail en mi-temps thérapeutique. Elle a aussi décidé de se battre pour que l'AVC soit mieux connu. En 2017, elle lance une pétition pour qu'une campagne de publicité soit faite pour expliquer les symptômes de l'AVC. Sans réponse du gouvernement, la pétition est toujours en ligne avec plus de 14 000 signatures. Et pour la signer, c'est sur Facebook et la page s'appelle « Pour une campagne de santé publique contre l'AVC ». Et vous pouvez aussi aider les enfants victimes d'AVC en donnant à l'association Care One de Toi.
Inès, vous nous rappelez comment on peut détecter un AVC ?
Il y a un moyen simple pour s'en rappeler. Il faut penser au mot vite, V, comme visage affaissé, s'il y a un sourire de travers, ou comme vue, perte de la vue. I comme inertie d'un membre, difficulté à bouger un bras ou une jambe. T comme trouble de l'équilibre ou trouble de la parole. Et E comme extrême urgence, il faut vite appeler le 15 dès que vous constatez un ou plusieurs de ces changements chez une personne. Vous pouvez m'expliquer ce que vous faites ce matin ?
Ce matin, entretien de vélo, changement de chaîne, nettoyage de transmission.
On va d'abord commencer par faire la vague. D'accord ? Vous voyez là derrière au fond, loin, il y a une vague.
En reportage avec Radio B.
Un nouveau guide pour se balader dans l'Ain, il s'appelle 20 belles balades dans les espaces naturels sensibles.
C'est aux éditions Belles Balades, en partenariat avec le département de l'Ain et la Fédération française de randonnée. Le livre, illustré par des photos et des cartes, est aussi équipé d'une application mobile avec un suivi GPS et des informations sur la faune et la flore. Amandine, une jeune et toute nouvelle burgienne, a testé avec nous la balade de Saint-Étienne-du-Bois entre l'étang de Bue et l'étang de Bizadan. Reportage.
Et nous voilà arrivés. Donc on est au point de départ. Durée difficulté, 14,6 km, 4 heures. Ok, donc c'est une balade entre forêts de plaine, étangs et paysages agricoles à la rencontre des trésors naturels de la Bresse. Et à chaque fois, on nous dit où il faut aller. Et il y a des petites indications pour voir un peu les animaux, les fleurs qui sont autour des endroits qu'on traverse. Oui. Et donc là, on continue donc dans ce chemin boisé pendant un petit moment. Et après, on ira à l'étang de Bizadan, qui est le deuxième étang de cette balade. Et avant de revenir sur nos pas et de finir la boucle par les bois, sûrement. On aura vu pas mal de papillons, des grenouilles,
des lézards,
beaucoup d'oiseaux,
des vaches, des chevaux, pas de chevaux.
Un peu de tout.
Ouais, un peu pareil.
Nous voilà arrivés à l'étang de Bizadan. Ah, une grenouille qui nous accueille. Elle est énorme. Donc là, on a fait 2 heures de marche. On est arrivé au deuxième étang de cette balade, l'étang de Bizadan. Donc Amandine, tu as pensé quoi de cette première partie de balade ?
Alors, déjà l'étang de Bizadan, ça vaut le coup, c'est très joli. Il y a des petits endroits pour manger, le petit banc à côté, très sympathique. Le cœur de la balade était peut-être un peu long sur de la route. Bon, de la route tranquille, pas trop de monde. C'était correct, mais c'était de la petite campagne. Et puis la première partie en forêt, c'était sympathique aussi, le petit chemin de forêt. Et vraiment, la fin, ça vaut le coup. Faut rester motivé, quoi.
Donc là, on va partir pour rentrer sur le premier étang, l'étang de Bue. Et donc, encore 2 heures de marche. Ça va tenir ?
Oui, il n'y a pas de raison, c'est du plat.
C'est vrai que c'est tout plat. Allez, on est parti. Et nous voilà, de retour. C'est la fin de cette balade. De 4 heures. Est-ce qu'on l'a faite en 4 heures ?
Oh ! 14h17.
4 heures, hein.
Ouais,
on a mis pile 4 heures avec une pause.
Un peu moins de 4 heures.
Ouais. Donc alors, qu'as-tu pensé aussi donc du bouquin et de l'application pour se retrouver sur ce chemin ?
Alors l'application quand même vachement pratique avec ce petit GPS qui nous a quand même pas trop mal servi. Le bouquin, du coup, on l'a un peu plus laissé de côté comme on avait le GPS. Donc quand même très utile cette application. Après, quelques petits bugs, mais bon, au niveau du cri des animaux, un petit peu triste de ne pas avoir repéré les cris du pivert. Sinon, non, bien.
Par contre, on était censé suivre un balisage jaune.
Ouais, à nuancer le balisage. Hein. Pas très clair. Je pense que le balisage qu'elle a actuellement, c'est peut-être pas cette rando-là. Enfin, vraiment, ouais. Plutôt se fier à l'application au GPS, du coup. Hein.
Un petit mot sur la balade en général, maintenant qu'on a fini.
Sympathique. Sympathique, oui, avec deux jolis petits étangs, une petite forêt sympa. Non, plutôt, ouais, bien, sympa.
Et le guide 20 belles balades dans l'Ain est en vente dans les librairies et sur Internet. Il coûte environ 18 euros et l'application mobile est inclue.
À vous les Burgiens, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute.
Et on se retrouve lundi prochain à 18h. Belle semaine sur nos ondes.
Quand on voit que les gens galèrent avec les salaires qu'on a, que ça va être qu'on va être à la retraite.
Ce qu'on déplore depuis des années, c'est le manque d'effectifs.
Je les suis, les filles, je trouve extraordinaire ce qu'elles font.
Ça fait comme si on envoyait des tas de petites bulles de musique un peu partout dans les cellules.
Une salle pour juste où on se pose l'hiver.
au chaud.
Il faut des endroits et des structures adaptées pour récupérer ben, les abîmés de la vie qu'on est.
À vous, les Burgiens.
Inès Lombarté, Audrey Arnondi.